Syllabe, la radio sauvage.
Faut juste oser, en fait, et poser aussi les bonnes questions.
Création, émission, fiction.
Les ateliers de radio Syllabe dès 10h le samedi.
C'est pour ça que j'aime bien la radio.
Les élèves de seconde de l'option audiovisuelle du lycée Chateaubriand à Rennes ont participé à un atelier de création documentaire avec la radio Syllabe. 13 élèves répartis en 3 groupes ont donc réalisé 3 mini-documentaires sonores. Ils et elles ont expérimenté le processus entier de réalisation, de l'écriture à la post-production. L'amour à travers les générations, la maltraitance animale ou encore le monde de demain au prisme de la liberté sont les thématiques qu'ont souhaité explorer les élèves à travers ce projet de création documentaire. Bonne écoute.
Syllabe, la radio sauvage. Dès 10h le samedi.
Avant, je détestais ma voix, maintenant ça va.
Moi, j'ai bien aimé enregistrer dans les studios et c'était cool.
Très bien. Ouvrez les yeux.
Je vole, Jack.
Vingt-cinq, 85 et l'amour dans tout ça, un podcast sur l'amour à travers les générations, présenté par Eva Corgas, Clarane Sinoquet, Johanna Baudet et Melinda Bourgeot.
L'amour pour moi, c'est deux personnes qui voient dans la même direction, qui partagent beaucoup de choses ensemble. Voilà, c'est d'être plutôt dans le partage et faire des choses ensemble.
Je crois que c'est être ensemble, en fait.
On peut être amoureux, on peut juste s'aimer bien. Par exemple, copain, copine, on peut être amoureux.
Moi, je considère l'amour, c'est très important pour moi. Malheureusement, il y en a qui le prennent à la légère, mais ça dépend des âges. Hein. Par contre, il vaut mieux être seul que mal accompagné.
Moi, j'ai plutôt comme ça, si on parle d'amour, plutôt envie de parler de mes parents, parce que toutes les deux, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir encore nos parents encore ensemble et très, très amoureux. Moi, ce que je pourrais retenir, c'est les gestes d'affection de mon père, les petites attentions. En fait, quand ils sortent dehors, il va toujours aller chercher l'écharpe pour ma mère, ou voilà, vraiment des petits gestes comme ça au quotidien, d'attention.
Des petits surnoms, des petits mots doux. Moi, c'est mon cœur, ma puce, même après, je sais pas, 30 ans de mariage ou je sais pas quoi. Donc, c'est de prendre soin de l'autre. Et puis, c'est encore des gestes d'affection, des câlins, des bisous qu'on voit encore sans gêne, sans problème devant nous. Quoi.
Comment on voit quels sont les signes que deux personnes sont amoureux?
Quand on est ensemble.
Un mot?
Bague, vibre, ensemble et se partager.
Mariage, câlin.
Collier d'amour.
Voyage en noces.
Amour. Bisous.
Est-ce que si votre enfant vous annonçait qu'il est homosexuel, vous l'accepterez sans difficulté
J'ai aucun sujet avec ça. Honnêtement, je l'accepterais pareil. Ouais, alors je pense que c'est une question aussi de chaque famille. Moi, je sais qu'il n'y a pas de sujet tabou. On parle de sexe avec mes parents et même quand on était jeunes, il n'y avait pas de tabou. Il y a toujours une petite gêne, mais on en parlait malgré tout. Donc, je pense honnêtement que si je leur avais annoncé, je pense qu'ils l'auraient pas mal pris. Les grands-parents, déjà, on arrive sur d'autres générations qui comprennent moins ça, donc ça va moins dans l'ordre des choses. Donc, je pense qu'ils m'auraient accepté pour eux, enfin, pareil pour autant, mais ils auraient peut-être moins, je sais pas, ils auraient rien dit.
The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me.
J'ai un exemple tout récent d'une copine qui était pendant 3-4 ans avec un gars, donc en plus un copain aussi à nous, et finalement il s'avère qu'elle préfère les filles. Ça a été compliqué entre eux deux, mais finalement, avec de la communication, ça s'est géré. Et moi, de mon côté, je pense que je suis d'une génération plus tolérante. Et en fait, ça ne me pose aucun problème du moment qu'elle est heureuse.
Quand on aime bien une fille et qu'on est une fille, bah, ça s'appelle que c'est comme si on était homosexuel.
C'est exactement le mot. Mais s'aimer, c'est quoi? Ça peut être avec qui? Comment?
Bah, on peut très bien être amoureuse d'un garçon, même si on est un garçon. On peut très bien être amoureuse d'une fille alors qu'on est une fille.
C'est normal.
Donc, je suis Céline Colliot-Hélène. J'ai 40, il faut faire le calcul maintenant, j'ai 42 ans. J'habite à Rennes. Je suis installée comme thérapeute familiale et de couple en libéral. Et aussi, je travaille en association. Voilà, qui propose des thérapies de couple et de famille en fonction des revenus.
Et est-ce que vous accueillez souvent des couples homosexuels et est-ce que ce nombre augmente ?
En fait, c'est arrivé assez rarement. On en a eu, alors parce que du coup, avant, je travaillais dans un service de thérapie familiale aussi hospitalier, enfin au sein d'un hôpital à Laval. Donc on a pas mal reçu de personnes là-bas aussi. Donc là-bas, j'ai le souvenir qu'on a reçu voilà, deux couples, mais c'était vraiment pas la majorité.
Dans les années 60, 29% des mariages finissaient en divorce. Aujourd'hui, ce taux a augmenté, atteignant 46%. Nous sommes allés dans la rue discuter de cette évolution avec des personnes de toutes les générations.
Moi, je suis divorcée, j'ai pas honte de le dire. C'est parce que je m'entendais plus avec mon ami et je préfère être seule maintenant. Mon cas n'est pas une généralité, mais je pense que les jeunes maintenant, ils sont vivent plus librement. Ils ont des enfants maintenant quand ils veulent. À l'époque, nous, on n'avait pas la pilule. Hein. Et puis, je pense qu'ils peuvent faire quand même des bons ménages. Et puis, je pense qu'il faut faire des concessions dans la vie.
Là, aujourd'hui, je pense que malheureusement, y a de la concurrence, il y a d'autres hommes, d'autres femmes. Et au final, quand il y a un truc qui ne nous plaît pas, on passe rapidement à quelqu'un d'autre. On se dit, allez hop, c'est terminé, c'est fini, on jette. Et dans une société de consommation, c'est un peu ça. Et je pense que personne ne fait l'effort de se dire, on a tous nos qualités et nos défauts. Les jeunes générations, maintenant, elles ne font plus du tout de concessions, elles ne font plus de sacrifices comme nos anciennes générations, nos parents ou nos grands-parents le faisaient. C'est vrai que je pense que les générations de nos grands-parents, ils s'aimaient, mais finalement, ils avaient l'habitude d'être ensemble et ils ne changeaient pas de conjoint comme on change de chemise à l'heure actuelle.
Mais est-ce que aussi on peut trouver ça mieux que les jeunes femmes qui étaient peut-être obligées avant de se marier avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas du tout, le fait qu'elle soit plus libre de divorcer, est-ce que c'est bien aussi?
Parce que c'est vrai que les anciennes générations, c'était moins des choix d'amour et c'était pas forcément eux, qui choisissaient leur partenaire. Donc c'est vrai que oui, pour ces générations-là, au contraire, c'est plutôt bien de pouvoir, divorcer, ça c'est sûr. Hein.
Mais c'est un peu difficile quand t'es divorcé, parce que si t'as des enfants, ou même si t'as trois enfants, c'est difficile pour la semaine. Je sais pas, moi.
Oui.
Même deux ou un, c'est déjà très difficile.
C'est vrai que ça peut être dur de faire la garde alternée, parce qu'il y en a, ils ont divorcé, mais dans la même ville. Mais moi, par exemple, je connais deux parents qui sont divorcés, mais ils habitent loin l'un de l'autre.
Est-ce que vous avez une petite anecdote qui vous a touché lors d'une de vos thérapies?
C'est un couple, par exemple, celui-là, enfin, ça n'a pas été le seul comme ça, mais où on sentait vraiment l'amour, en fait, justement. C'est-à-dire qu'il y avait plein de difficultés. Souvent, les couples, ils amènent plein de difficultés. Et on propose donc des tâches qu'ils ont à réaliser entre deux séances. Donc, c'était que chacun repère chaque jour quelque chose qui lui a fait du bien personnellement et puis une autre chose qui lui a fait du bien au niveau du couple. Et eux, ils s'étaient un peu emparés de cette consigne et du coup, ils avaient écrit ces petits papiers et après, ils étaient revenus chacun avec une boîte avec ces petits papiers remplis. Donc chacun avait pris la boîte de l'autre et ils se les lisaient en fait un peu comme on sortait des petits chocolats, quoi. Ils se les lisaient chacun comme des sortes d'attention et avec beaucoup d'amour. Voilà, je me rappelle l'amour dans leur regard et c'est vrai que voilà, rien que ça, voilà, un bon souvenir que j'ai.
Le samedi, les productions des ateliers radio sont sur Syllab.
C'est quand on avait le casque, c'est qu'est-ce que j'ai préféré faire.
Dès 10h le samedi.
La maltraitance animale, un sujet méconnu, souvent ignoré, mais pourtant primordial.
Est-ce que vous avez déjà été témoin de maltraitance ?
Pas de la vraie maltraitance.
Je pense pas réellement de maltraitance en face de moi.
Oui, et lorsque j'ai été témoin, je suis allée voir la personne directement.
En effet, plus de la moitié des Français disent avoir au moins un animal de compagnie. D'après le ministère de l'Intérieur et d'autres maires, énormément d'animaux sont victimes de violences physiques, de mauvaises conditions, d'abandon, ils tombent souvent dans des pièges, ils sont empoisonnés ou alors ils sont victimes d'atteintes sexuelles. Ces violences touchent majoritairement des chats et des chiens, mais aussi des équidés ou encore des bovidés. La liberté humaine est souvent mise en avant. Pourtant, les hommes ne sont-ils pas la cause de la restriction des libertés animales en étant les acteurs des maltraitances animales, notamment domestiques ? Pour lutter contre ces maltraitances, des associations telles que la SPA ont été créées. La SPA signifie la Société Protectrice des Animaux, qui en 1845 est la première association qui œuvre dans le domaine de la protection animale en France. Nous sommes allés leur poser des questions sur leur travail et sur leur vision concernant la protection des animaux.
Je me présente. Moi, je m'appelle Manon, je suis agent animalier depuis un an et demi. Donc, moi, mes missions principales, ça va être de veiller au bien-être, à la sécurité et à la santé des animaux. On accueille les animaux, donc on va avoir des abandons, on va avoir des fourrières, c'est très souvent des fourrières. On a des réquisitions de justice aussi. Il faut aller hyper vite, il faut les enregistrer, il faut commencer à préparer les plannings pour les vétérinaires parce que c'est pareil, les places, voilà, on n'est pas prioritaire sur les particuliers. Donc ça, c'est assez compliqué aussi. Donc ça, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'accueil. Pour le suivi de nos animaux, il faut savoir aussi qu'on est garant de toute leur vie, en fait, à nos animaux.
Moi, perso, j'ai un chien. Et franchement, je trouve qu'il est vraiment libre. Après, je connais des gens qui ont des chiens, mais qui vivent dehors attachés pendant toute la journée et tout ça. Et ça, vraiment, c'est pas possible.
Ça me fait mal au cœur quand je vois des maîtres tirer leur chien par la laisse, alors que leur chien, il veut pas forcément y aller. Au lieu de simplement, je sais pas moi, le porter ou l'attirer avec une friandise, il le tire par la laisse assez violemment et tout. Et ça fait mal au cœur, effectivement.
Je vais vous parler de ma première saison. En août, c'est la saison des chatons. C'est aussi la saison de l'ouverture et c'est très dur. Je viens tous les matins plus tôt parce qu'on a un chat qui est diabétique. Du coup, j'ouvre tout. J'ouvre le chenil, la chatterie et en fait, malheureusement, je tombe très souvent sur des cadavres en été. C'est très dur. La première ouverture a été très, très éprouvante pour moi parce que je venais d'arriver et en fait, fallait que je mette un chaton, désolé, dans un sac poubelle pour le mettre au congélateur. Donc, c'est très dur.
Comment définirez-vous les maltraitances des animaux domestiques ?
À mon avis, c'est assez large. C'est ce qui prive l'animal. Enfin, c'est compliqué, il y a plusieurs domaines. Ça peut être de la maltraitance, je pense. L'aspect psychologique chez les animaux, à mon avis, il est assez peu pris en compte. Bon, je sais pas, enfermer son animal dans la cave parce qu'il fait trop de bruit et des trucs dans le style, ça peut être de la maltraitance. Il y a tout ce qui est lié à la santé aussi, le fait de mal s'en occuper. Donc, je sais pas, définir proprement, c'est compliqué. Je dirais que c'est très large et on le définit mal, je pense, aujourd'hui.
Alors déjà, il y a la maltraitance et la négligence. La négligence, ça va être par exemple ton chien, il n'a pas de l'eau fraîche tous les jours, ou ton chat, ou ton hack, nouveaux animaux de compagnie, donc les lapins, les furets, les rats, les souris, enfin tout ça. Pour moi, ça c'est plus de la négligence liée à la méconnaissance. Maltraitance, ça va être vraiment, je tabasse mon chien parce que je ne suis pas capable de gérer mes problèmes tout seul. Je vais ébouillanter mon chat, je vais enlever la peau de mon animal pour en faire une écharpe. Voilà, tout ça, je vais aussi couper mon animal de la lumière du jour, ça c'est pas de la négligence, c'est de la maltraitance, voilà, clairement, je le dis. Les hypertypes aussi, pardon, les hypertypes, ça va être pousser la génétique au maximum, donc ça va être le charpet par exemple, qui a des plis partout, ça va être tout ce qui va être brachycéphale, donc en gros le nez et la bouche sont trop rapprochés, donc le chien ne peut pas respirer, donc je vais vous donner l'exemple du bulldog français ou du bulldog anglais, ça c'est de la maltraitance. Il y a énormément de choses qui font partie de la maltraitance. Pour moi, la France n'est pas du tout encore assez renseignée.
Est-ce que pour toi, les animaux domestiques sont-ils assez libres aujourd'hui ?
Je ne pense pas, parce que principalement tout ce qui est les aquariums, je trouve, et les oiseaux en cage aussi. Je trouve que c'est vraiment compliqué.
En toute sincérité, j'ai beau faire le meilleur métier du monde selon moi, je pense que j'arriverai jamais à les rendre aussi libres qu'ils le voudraient. Nos bénévoles, ils sortent nos chiens Et ça, c'est la liberté, parce que nous, on les met dans des parcs de détente. Sauf que, bah, en fait, dans les parcs de détente, les chiens, ils s'ennuient, ils s'embrouillent entre eux. Et ça, c'est pas, pour moi, c'est pas une liberté. Alors oui, d'accord, ils ont pas d'harnais, ils ont pas de longe, ils ont pas de laisse. Mais la liberté, c'est de pouvoir aller courir dans un champ, monter dans une voiture, courir après une grenouille, un lapin, un chat sauvage. Ça, c'est la liberté, selon moi. Ils sont pas libres à partir du moment où... où ils sont dans des box, où on doit leur tourner le dos pour passer d'un chien à un autre. Excusez-moi, ça m'émue. Parce que, bah, voilà, pour moi, la liberté, c'est que justement, ils puissent être sur des grands terrains et qu'ils puissent vivre, en fait. Vivre en harmonie, vivre en meute aussi. Les chiens, les chats, c'est des animaux de communauté comme les nacs, en fait. Donc non, pour moi, ils ne sont pas assez libres. On fait ce qu'on peut, nous, ici. Pour moi, la liberté, ce serait retourner à l'état sauvage. Alors, sans la chasse, sans tout ça, naturellement, hein, en Afrique. Hein. Mais ouais, qu'ils puissent gambader s'ils ont envie de gambader, qu'ils puissent hurler s'ils ont envie d'hurler, enfin, voilà.
J'allais dire inhumaine, mais c'est des animaux, donc forcément, c'est pas humain. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est des choses où, sur les humains, on les punirait au niveau de la loi très lourdement, alors que sur les animaux, bah, c'est très faible, quoi. Je crois que c'est 3 ans maximum de prison. Donc je pense qu'en plus, par la loi, c'est ça, elles sont pas très bien considérées.
En France, les maltraitances animales domestiques ont toujours été un problème pris au sérieux. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures afin de condamner ces maltraitances. Par exemple, maltraiter un animal nous expose à une amende qui peut aller jusqu'à 75 000 euros ou une peine d'emprisonnement, entre 4 et 5 ans. De plus, un grand nombre d'associations défendent ces maltraitances et cherchent à rendre les libertés à ces animaux enfermés ou maltraités. Mais pour d'autres pays, les maltraitances sont plus violentes et beaucoup moins punies par les lois. D'après un article du journal Sud-Ouest, certains Chinois ont trouvé une sorte de passion, les pochettes surprises. Le principe est simple, il y a des centaines de boîtes avec dedans des chiots ou des chatons, enfermés, sans air. Ils sont entassés dans des camions et meurent donc de faim ou d'étouffement. Et pourtant, cette activité est illégale. Selon Radio France, quelques zones de Chine autorisent à manger des animaux. Par exemple, manger du chat dans le nord est interdit, alors que c'est autorisé au Sud-Est. Et encore, d'après le journal 30 millions d'amis, la Chine est le premier producteur de fourrure. 13,5 millions de chiens ont été tués pour leur fourrure. Mais heureusement, des pays comme la Nouvelle-Zélande sont plus rigides sur la maltraitance. En mai 2015, il y a eu une révision d'une ancienne loi sur le bien-être animal, déclarant que tous les animaux sont sensibles et libres. Pour cette même protection, l'exportation du bétail par voie maritime a été mise à l'arrêt. Les moutons, autre symbole du pays, sont tendus dans une atmosphère zen et les chiens sont dressés pour ne pas aboyer sur eux. Les moutons malades sont carrément chouchoutés.
Un de mes meilleurs souvenirs, ça a vraiment été de sauver deux chats que j'ai été chercher en garde à vue. Voilà. Et ça a été magique parce que c'était des chattes qui avaient très peur de l'humain. Donc j'ai fait un travail de dingue là-dessus parce que bah, elles se faisaient pipi dessus dès qu'elles me voyaient, etc. Pourtant, je les ai sorties de là, mais voilà. Et ouais, ça a été super beau de se dire que voilà, elle a reconfiance en moi et je leur ai trouvé des superbes familles. J'ai des nouvelles presque tous les jours. Je sais pas, trop bonne expérience. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est tous les jours. Ça va être autant un animal qui est hyper peureux, hyper craintif, ou alors un animal qui est là depuis des années et en fait qu'on arrive à faire partir enfin en famille, dans une bonne famille. On a énormément de choses à faire, tout ce qui va être dans les animaleries. Stopper la vente d'animaux, c'est juste ignoble. Tout ce qui va être élevage. Alors oui, il y a des bons élevages, oui. Je suis agent animalier en SPA, je dis ça. Mais il y a aussi beaucoup de ventes juste horribles. Donc oui, pour moi, il y aura toujours du progrès à faire. C'est comme chez nous, hein, nous aussi, on a du progrès sur notre liberté. Je dirais surtout qu'il faudrait améliorer leur liberté d'expression. On ne lit pas assez les animaux. C'est pas parce que c'est un petit chihuahua qu'il a tout le temps besoin d'être dans les bras, ou c'est pas parce que c'est un rottweiler ou un malinois, surtout les malinois, qui doivent faire chien de garde, être attaché ou chien de sécurité. C'est des choses qu'il faut vraiment que les mentalités changent. Et voilà aussi la liberté qu'il n'y ait pas des chasseurs qui puissent tirer sur nos chiens, la liberté aussi que nos chats ne se fassent pas prendre dans des cache-trappes par des gens ou des choses comme ça en fait. Et vive les animaux, venez les chercher en refuge plutôt que de les prendre en élevage. Parce que sachez qu'on a énormément d'animaux qui arrivent chez nous et qui ont été achetés en élevage. On a des, des loulous qui sont vieux, jeunes, une patte cassée, un truc comme ça. Mais enfin, voilà, on s'en fiche. Venez, on les aime et venez, on est libres tous ensemble. Et voilà. Aimez-vous les uns les autres, mince. Des bisous.
Malgré toutes les violences faites aux animaux et l'atteinte à leur liberté, beaucoup d'associations et de personnes luttent pour les protéger, les soigner et préserver leurs droits par rapport aux humains. Les gouvernements, comme la Chine, la Nouvelle-Zélande ou même la France, créent de plus en plus de lois pour veiller au bien-être animal. Mais ces droits ne sont jamais acquis, et c'est à nous de veiller à la préservation de leur liberté. C'était un reportage de Sophie, Lilou, Sidonie et Hippolyte.
C'est là, la radio sauvage, dès 10h le samedi.
Avant, je détestais ma voix, maintenant ça va.
Moi, j'ai bien aimé enregistrer dans les studios et c'était cool.
Vous êtes sur le podcast de Cléo, Léon, Isia, Lisandre et Angèle. En tant que jeunes lycéens, nous sommes traversés par de nombreux questionnements sur notre avenir, mais aussi des questions plus générales sur l'évolution de notre société. Conscients des inquiétudes passées et enjeux actuels, nous nous demandons comment notre société appréhende-t-elle le monde de demain. C'est un sujet intergénérationnel et c'est pourquoi nous avons choisi de croiser plusieurs sources et points de vue. La perception des enfants des années 60 sur le futur est-elle la même que celle des enfants d'aujourd'hui ? Pour le savoir, nous allons comparer les réponses recueillies dans une école de nos jours à celles d'enfants des archives de l'INA.
Ce sera beau l'an 2000 ?
C'est-à-dire que je ne conçois pas du tout l'an 2000, étant donné que maintenant, c'est déjà pas très beau à voir le monde.
Je pense que ça sera magnifique.
Oui, parce que peut-être que on aura peut-être trouvé une solution pour tout ce qui se passe en ce moment, la pollution. Et non, parce qu'on sera avancé, peut-être que ce sera encore pire si on n'a pas trouvé de solution.
Et où se passera la circulation ?
Je vois comment les voitures passeront en sous-terre.
Les véhicules, pas pareil, je pense. Je pense qu'ils seront plus écologiques, plus rapides. Plus pratique.
Peut-être qu'ils voleraient.
Déjà, on parle des voitures volantes prévues en 2050.
Moi, j'aimerais bien que ça soit plus écolo pour la planète. Parce que sinon, la planète, il y aura trop d'eau.
Le coin de verdure, tu envoies des coins de verdure quand même ?
Non.
Pas du tout ?
Non. J'aimerais plus d'arbres, plus de nature. On arrête de casser la forêt qui sont naturelles pour faire autre chose avec.
Qu'il y aura moins d'animaux.
Est-ce que tu vois une vie extérieure à la planète Terre ?
Oui, mais ça me paraît très possible puisque maintenant il y a des astronautes. Mais c'est effrayant.
Peut-être qu'il y aura de la vie, qu'on enverra des humains sur Mars. Peut-être. Je suis un peu curieux, mais moi ça me plaît la vie aujourd'hui. On peut, il y a déjà des expériences qui sont en train d'être faites pour savoir si on pourra aller vivre sur Mars.
Il y aurait même des gens qui vivraient sur d'autres planètes.
Finalement, on se rend compte que les appréhensions des enfants restent les mêmes d'année en année. Cependant, qu'en est-il d'une personne âgée ayant connu une rapide évolution de la société, notamment sur le plan du féminisme ?
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes.
Mais non, mais je me rappelle de rien, c'est ça qui est terrible chez moi dans ma vie, c'est que tout le passé là, c'est passé.
J'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux.
Si tu veux, nous, les filles, enfin, on était quand même un peu contraintes par plein de choses. Du moment qu'on sortait pas, qu'on était sages, qu'on travaillait bien à l'école, c'était tout. Et maintenant, quand je vous vois ouverte à plein de choses, de la politique, de la vie active, du point de vue culturel, bon, je trouve ça super chouette. Bon, c'est vrai que bon, moi j'ai suivi assez tôt tous les mouvements un peu féministes quand même. Oui, j'ai participé à tout ce qu'a pu être manifestation pour l'avortement, pour le mouvement féministe. Bon, Gisèle Halimi, Simone Veil, sur l'avortement et tout ça, oui, c'est quand même une très belle chose que ça existe. Mais je crois que maintenant, c'est pas encore gagné, ça. Hein. C'est pas si facile que ça. C'est reconnu, c'est admis, mais c'est pas simple du tout. Du point de vue, j'espère, en tout cas, de l'égalité des gars et des filles. Je trouve que c'est déjà pas mal avancé, mais oui et non, quand on entend tous les discours des problèmes des femmes qui sont quand même encore faibles par rapport aux hommes dans plein de domaines, dans le domaine du travail, mais aussi de... qu'il existe encore tous ces femmes battues, enfin des choses comme ça, c'est quand même, on peut espérer, on voit bien que ça bouge, parce que quand même maintenant tout ce qui se passe depuis MeToo et tout ça, c'est quand même hyper chouette, enfin hyper important. Là, enfin les femmes existent quand même beaucoup plus, à mon sens quoi. Et oui, là-dedans, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à parcourir. Hein, vous n'êtes pas quittes, hein, je trouve, au niveau... Et puis bon, ce qu'il faut changer, c'est beaucoup la mentalité masculine. Quoi. C'est eux qui ont le plus grand travail à faire pour l'instant. Enfin, j'espère que ça va évoluer encore et encore. Quoi. À espérer que ça continue d'évoluer dans le sens que ça prend, mais... Oui, on voit bien toutes les marches arrière qui peuvent exister. Donc, oui, mais c'est pas sûr et déterminé que ça va forcément aller de mieux en mieux. Une bonne politique réac et voilà.
Cette bascule pourrait se faire avec les jeunes de notre âge. Voyons comment ils envisagent les années à venir et ces changements.
Ok, donc on m'a demandé comment je voyais le monde de demain. Et donc, alors premièrement, je pense que c'est un monde qui, pour nous en tant que Français et dans l'Europe, va être un monde positif parce qu'on sent qu'il y a une vraie motivation parmi les jeunes pour s'engager et pour pouvoir faire des choses bien. En 2050, comment je vois le truc? Je pense qu'on sera toujours dans une démocratie libérale avec un peu de chance. Juste je pense que les riches seront encore plus riches et qu'il y aura encore plus d'inégalités. La crise climatique aura aggravé plein de tensions et je pense pas qu'il y aura un gros sursaut et que je pense qu'en 2050 ce sera notre monde pareil que maintenant, pareil qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans avec juste plus de problèmes.
Je pense qu'il y a quand même des évolutions qui sont possibles, on libère beaucoup la parole et je pense que ça va aller en s'arrangeant.
En gros, pour moi dans le monde de demain, dans 50 ans, je vois de manière optimiste mais une société qui a complètement changé par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Genre la fin de la société de consommation, mais pour le mieux, pour s'adapter, justement pour le combat contre le changement climatique. Mais donc la fin de tous les choix, de tout ce qu'on peut avoir maintenant, je pense que ce sera plus trop pareil, mais enfin, pour le mieux en quelque sorte.
En France, on est un pays relativement, on est relativement libre, parmi les pays les plus libres du monde, je pense. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun changement qui peut être fait.
On n'est pas, si vous voulez, libre de nos choix. Et ça, bon, c'est entre guillemets normal, parce qu'on vit en société.
Je pense que j'aurais la liberté d'avoir des enfants, mais c'est peut-être que j'en aurais pas, parce que j'ai pas forcément envie qu'ils vivent dans un monde horrible. Et je me dis, si je les mets au monde et qu'après, ils doivent vivre dans l'apocalypse, enfin, c'est horrible. Je préfère qu'ils ne voient jamais le jour, plutôt qu'ils vivent dans un monde complètement... horrible, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on aura sûrement plus de liberté, mais après c'est aussi la question de la pression. Par exemple, est-ce que je pourrais avoir des enfants? Oui, mais est-ce que j'en voudrais? Non, pour les faire grandir dans le monde dans lequel on vit, quoi.
Actuellement, la seule pression que je ressens, c'est Parcoursup et la peur de pas avoir les notes nécessaires pour accéder à aux formations que je veux faire.
Bah, déjà, en ce moment, en tant que jeune, il y a forcément une certaine pression par rapport au travail, hein, au monde du travail dans lequel on va bientôt s'engager.
Bah, en vrai, j'aimerais bien faire le métier que je veux, mais je me dis, il faut aussi que je pense à demain, donc j'essaierai plus de me tourner vers un métier qui aide vraiment le monde.
Bah, en fait, je pense qu'il faudra développer de nouveaux métiers pour régler les pressions auxquelles on va faire face, donc par exemple le réchauffement climatique.
Je suis assez confiant sur l'avenir, je pense qu'on va réussir à trouver des solutions sur les problématiques actuelles telles que le changement climatique.
En vrai, ouais, il y a une pression puisqu'on en parle partout dans les médias, etc. Et on fait que de nous dire à quel point c'est dangereux. Donc.
Et je trouve ça horrible parce que c'est vraiment, on est de la génération sur qui on remet tout. On nous dit, vous devez faire changer le monde, tout ça. Et en même temps, on n'est pas trop ceux qui avons causé tout ça. Genre le réchauffement climatique, c'est, on est un peu victime de ça. Et en même temps, on doit le changer, donc c'est assez compliqué.
Après, parfois, on aura peut-être un peu tendance, nous les jeunes, à trouver que, à trop se sentir légitime. Je sais pas comment dire, mais vous voyez, parfois, il y a un peu trop ce côté, sur la guerre, sur la crise climatique, c'est pas de notre faute, c'est la faute de nos parents. Et ça, je pense que c'est un vice sur lequel il faut faire attention pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. La crise climatique, elle montre une réelle faille dans notre société, dans notre mode de vie.
La conquête spatiale va nous permettre de trouver des solutions qui seront utiles pour sauver la planète.
Les enjeux environnementaux auxquels on fait face, je pense que ça va réussir à mobiliser notre société. Et c'est ça qui est cool, c'est que moi, en tant que jeune, j'ai plein de potes qui sont ultra engagés et je sens qu'il y a un vrai truc. Et donc je pense que oui, ça sera bien, mais il y a des jeunes motivés. Après, entre être motivé et agir, c'est pas la même chose.
On sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont fêtards. Quelle ironie de mourir en position fétale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on n'y pense pas. On verra bien, ce que l'avenir nous réserve. On verra bien.
Syllab, la radio sauvage.
Dès 10h le samedi.
Nous, on a beaucoup aimé préparer cette émission pour vous.
Les ateliers de radio Syllab, dès 10h le samedi.
J'ai entendu ta voix dans la radio.
On remercie la radio Syllab pour les ateliers.